Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence, pour toutes ces prières qui sont montées jusqu'à lui. Nos prières, ce ne sont pas que des mots, que du son, mais Dieu est attentif. La Bible nous dit qu'il les recueille dans des coupes d'or. Alléluia. Et nous sommes dans cette position de foi. Nous ne prions pas un Dieu imaginaire, mais nous prions un Dieu vivant qui penche son oreille pour agréer les demandes, les prières, les supplications, gloire à Dieu. Et la prière de la foi fait bouger le bras de Dieu. Et nous nous attendons à ce que le Seigneur entre en action dans toutes les situations compliquées, quelquefois même graves. Nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va ouvrir la bonne parole du Seigneur, introduire ce message qui ne sera pas très très long, mais on va partager ensemble quelques enseignements. On va commencer avec une lecture que l'on trouve dans les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 29. Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et au chapitre 5, on ajoute la fin du verset 4, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Et puis on va lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, Deutéronome, chapitre 22, trois anciennes prescriptions que Dieu avait données à son peuple et qu'on va essayer de méditer ensemble. Chapitre 22, le verset 9. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Amen. Ça peut surprendre de lire dans ce texte que Dieu a pris soin de donner des recommandations très précises, même dans le détail, afin que son peuple puisse évoluer dans le succès et le bonheur. Et je voudrais que ce soir, en quelques minutes, nous réfléchissions sur la portée spirituelle de ces trois recommandations où Dieu recommande vivement à son peuple de se garder de certains mélanges. J'ai appelé mon message de ce titre « Pas de mélange ». Pas de mélange. Il y a des mélanges qui vont inévitablement engendrer un affaiblissement, un appauvrissement. Tu ne mélangeras pas diverses semences, tu ne mettras pas ensemble le bœuf et l'âne, tu ne porteras pas de vêtements tissés de fibres diverses, notamment la laine avec le lin. Il y a donc des associations impossibles. Sinon, elles engendreraient des conséquences négatives. Il y a donc, pour les choses de Dieu, frères et sœurs, pour la marche chrétienne, le service chrétien, la piété au quotidien, pour les choses de Dieu, il y a une pensée qui revient très fortement dans les Saintes Écritures, c'est la radicalité. Un cœur entier. Il y a tellement de paroles qui nous mettent en garde sur ce danger, ce piège d'entrer dans un mélange, dans une conception avec des compromis, jusqu'à ce qu'un jour Élie lance ce défi au peuple d'Israël, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Ils n'avaient pas officiellement renié leur foi en l'Éternel, mais ils avaient aussi accepté un mélange impossible, la dévotion à Astarté et à Baal et à de l'idolâtrie, et cela est impossible, impossible. Donc Dieu prend soin d'éduquer son peuple sur cette réalité. Lorsque on veut l'aimer, le servir, l'honorer et s'attacher à lui, eh bien il y a, même si ce n'est pas très à la mode, la notion de la radicalité. Le chrétien, c'est un être qui est radical dans sa foi. Il sait en qui il croit. Il sait pourquoi il est chrétien. Il peut même en témoigner et il met sa joie à en témoigner. Un chrétien est capable de dire avec clarté ce qu'il était jadis et ce qu'il est devenu par la rencontre avec le Sauveur. Il peut témoigner clairement. Dans une société où il n'est pas très bien vu d'avoir un discours clair et où on aime bien louvoyer, eh bien le chrétien, lui, eh bien il marche avec le Seigneur. D'un cœur entier, d'un cœur totalement acquis au Seigneur, un cœur sans compromis. Des exemples merveilleux nous sont donnés dans les Saintes Écritures de personnages qui, confrontés à des dilemmes assez effrayants, ont malgré tout décidé de se garder de mélange dégradant pour honorer le Seigneur. Daniel, ses trois amis et tant d'autres personnages dans les Saintes Écritures. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais, frères et sœurs, qu'on puisse réfléchir sur ces trois prescriptions. Vous savez, il y a toujours ce danger subtil de certains mélanges. Le mélange entre le divin et l'humain, le mélange entre le spirituel et l'émotionnel, le mélange entre le biblique et le culturel, le mélange entre l'enseignement divin et les traditions religieuses. Au point que, par exemple, le Seigneur Jésus va clairement stigmatiser ses contemporains religieux. La Bible nous dit, par exemple, je vous le lis comme cela, « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Donc sans concession, le Seigneur Jésus a mis en évidence cette démarche redoutable qui s'est faite au fil des générations où, sans vraiment rejeter la parole de Dieu, le milieu religieux y a ajouté ses traditions, traditions humaines, et ça a été un moyen que Jésus qualifie d'hypocrite, n'est-ce pas, de se soustraire à la parole de Dieu pour pratiquer des principes, des préceptes, des traditions qui étaient beaucoup plus confortables pour eux. Le mélange est un risque permanent. D'où la nécessité de la pureté et du maintien de la pureté. La nécessité de l'intégrité, d'avoir un cœur entier. Du commencement de la vie chrétienne, au sortir du baptistère, jusqu'au dernier instant de la marche chrétienne où le Seigneur nous reprend, sa volonté, c'est que notre cœur lui soit entièrement acquis. Salomon, dans sa vieillesse, vous le savez, n'avait plus un cœur entier pour l'Éternel, malgré ses commencement prometteur, eh bien, peu à peu, eh bien, il a cédé du terrain, des choses se sont mélangées avec sa vie affective désordonnée, des pratiques et des croyances idolâtres ont fini par s'infiltrer dans le pays et au final, son cœur a cessé d'être entier pour le Seigneur. Alors, voilà. Il y a trois recommandations. Ne pas mélanger les semences, ne pas atteler ensemble le bœuf et l'âne, et ne pas porter un vêtement tissé de deux fibres différentes, la laine et le lin. Alors on peut réfléchir un peu sur la portée spirituelle de ces trois recommandations. La semence, on est bien d'accord que la seule semence que nous sommes appelés à diffuser abondamment, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Que la Bible appelle aussi l'évangile éternel. L'évangile éternel. Donc, il est hors du temps. Les modes, les courants de pensée n'influent pas sur son contenu, sur sa puissance, c'est l'évangile éternel. Et il correspond aux besoins de l'être humain dans toutes les générations. Et moi, je crois que l'évangile du Seigneur est le remède à notre génération. Et nous sommes appelés à semer la semence de l'évangile. L'apôtre Paul dira ceci, je vous le lis comme cela très rapidement, dans l'épître aux Galates, il dira ces paroles, « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais, à Pierre, à Jacques, aux anciens, aux colonnes, aux apôtres de Jérusalem, je leur exposais l'évangile que je prêche. » Amen. J'aime cette expression. L'évangile que je prêche. Et il a obtenu, bien sûr, l'approbation de ses apôtres, au point même qu'ils ont donné la main d'association avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a été un défenseur inflexible de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile éternel. La Bible dit aussi, c'est l'évangile de Dieu. Sa source, c'est Dieu. C'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de l'espérance. C'est l'évangile du salut. Et comme il y a un seul évangile de Dieu, il y a, puisque le diable est un contrefacteur professionnel, divers évangiles, de faux évangiles, des évangiles frelatés qui vont bien sûr foisonner. Et notre souci, c'est de ne pas mêler diverses semences. Vous savez que le semeur de l'ivraie, c'est le diable. Quand il ne peut pas empêcher les serviteurs du maître de semer la bonne semence, il va quand même essayer la nuit, pendant que les serviteurs dorment. Il ne faudrait pas que notre Église dorme, que Dieu la réveille. Amen. Il va essayer de semer l'ivraie, donc de mélanger deux sortes de semences qui, à leur état originel, sont très très proches, mais lorsque le blé pousse, puis l'ivraie à côté pousse, c'est absolument deux végétaux très différents, très différents. Mais la confusion est facile. Et la Bible me dit qu'en matière de semences, je dois veiller à interdire toutes sortes de mélanges. Il est bon que nous réaffirmions notre foi dans l'évangile de Dieu. Amen. Qui n'a nul besoin de réaménagement, il est indémodable, il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Dieu, dans sa sagesse et sa volonté souveraine, a établi les choses ainsi, de sauver les perdus, mais par la folie de l'Évangile. L'Évangile du crucifié, l'Évangile du ressuscité, alléluia, l'Évangile éternel, que le Seigneur soit béni. Et que Dieu nous aide à être des semeurs attentifs, appliqués, vigilants, infatigables, de la bonne semence. Pourquoi vous ai-je lu en introduction ce texte dans l'Épître aux Éphésiens ? Parce que tout simplement, on pourrait dire que tous les propos, toutes les paroles qui sortent de notre bouche sont comparables à de la semence. À de la semence. Quand tu parles, tu sèmes. Quand tu parles, tu sèmes. Et nous avons lu ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et donc, il y a toutes sortes de développements, de détails, des paroles d'amertume, des paroles d'animosité, de colère, etc., etc. Mais, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je crois que la semence que Dieu approuve, c'est la semence qui édifie. Amen. C'est la semence qui édifie. C'est la parole qui va apporter à celui ou à celle qui l'entend quelque chose de céleste. Une instruction, une sagesse, une consolation, un encouragement, l'édification. Ça, c'est la conséquence de la bonne semence. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur fasse de notre bouche un instrument d'ensemencement édifiant. Alléluia. Un jour, c'était pas ici, parce qu'à Aubagne, ça ne se passe jamais comme ça, mais c'était ailleurs, et il y a longtemps. j'ai dû avoir un entretien avec un couple. J'ai voulu que le mari soit là parce que son épouse posait un gros problème dans l'église. Dans tous les services où elle exerçait, elle mettait la zizanie. Elle semait la zizanie. Je lui dis, mais écoute, c'est incroyable. Partout où tu passes, tu mets la pagaille. Tu mets un esprit de confrontation dans les équipiers, une atmosphère invivable, irrespirable. Partout où tu passes, tu exprimes des paroles qui troublent, qui perturbent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que dans ce domaine, on a vraiment besoin que le Seigneur nous utilise et utilise notre langue, notre bouche pour faire du bien. Amen. Pour faire du bien. Pour édifier. Pour contribuer au relèvement d'un frère, d'une sœur. Pour ramener peut-être à un apaisement un bien-aimé qui est dans une phase très agitée, qui a du mal à retrouver ses repères par une bonne parole de Dieu. Tu peux semer dans son cœur l'édification. Tu peux, avec amour, lui rappeler les promesses de Dieu, de fidélité, de provision, de secours. Que notre langue soit un instrument d'ensemencement béni et édifiant, que le Seigneur soit béni. La deuxième prescription, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Il est question de labourer, je parlerai ici du service de Dieu. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, fréquemment, le bœuf est le symbole du service et du serviteur. Il représente la mentalité du serviteur. Différemment de l'âne, qui, lui, par nature, a des caractéristiques très différentes, pourtant, le Seigneur aime l'âne aussi, pas de problème. Maintenant, ne vous dites pas qui est le bœuf, qui est l'âne parmi nous. Mais le Seigneur ne fait pas de discrimination. Il a bien choisi un âne à Béthanie pour faire son entrée à Jérusalem, voyez. Mais quand même, l'âne, je le comparerais aux chrétiens immatures. Parce que l'âne, il est versatile. Son caractère a besoin de mûrir. Il est capricieux, l'âne. Même si vous lui mettez une carotte bio devant le museau, s'il n'a pas envie d'avancer, il n'avance pas. C'est son humeur qui prend le pas sur le service. S'il a envie de servir, il sert. Et pourtant, il a un potentiel formidable. Un âne, c'est costaud. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires dans les pays orientaux, dans le Maghreb, tout ça. Et quelquefois, on voit un énorme fagot bouger tout seul. En fait, en dessous, il y a un âne. Mais on ne le voit pas tellement la charge est volumineuse. Le fagot, il bouge tout seul. Non, il ne bouge pas tout seul. Il y a un âne quand même robuste et qui gravit des pentes escarpées. Donc, il y a un potentiel chez l'âne. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de discrimination, mais son caractère, sa mentalité, ses réactions devant certaines situations, sa manière de gérer certaines problématiques dans l'immaturité font qu'il aura du mal à être associé au bœuf. Le bœuf, lui, c'est la force tranquille. Quand la météo se met à la pluie et à l'orage, l'âne va trouver un abri sous un arbre, mais le bœuf, il tire la charrue. Qu'il vente, qu'il pleuve, que le soleil soit accablant, aussi longtemps que le bœuf sent que son maître est derrière avec les rênes et aussi le pic à bœuf, il trace le sillon, il avance. C'est pas spectaculaire son travail. Sa force n'est pas une force qui va impressionner. C'est pas le spectacle qui compte pour lui, c'est l'efficacité dans le temps. Il travaille. C'est l'image du serviteur et de la servante, hein, persévérant, persévérante, docile, fidèle, qui accomplit tranquillement mais efficacement les œuvres que son maître lui confie. Qui voudrait être un bœuf là ce soir? Moi j'aimerais être, voilà, un bœuf. Voilà. Qui travaille. On visite les gens, on prêche l'évangile, on prie pour des situations, et peu importe les circonstances, on ne leur donne aucune importance. L'important pour nous, c'est les promesses de Dieu. Alléluia, nous savons que tôt ou tard, le bras de l'Éternel va se mettre en mouvement et qu'au bout, il y a une bénédiction qui est préparée. Mais on ne regarde pas aux nuages qui passent, on n'est pas impressionné par les bourrasques, on avance, on travaille. L'actualité, les informations de 20 heures, tout ce qu'on peut entendre, voir, la société qui s'agite, les fondements de la société qui se fissurent, tout cela, ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Nous, nous voulons être ces bœufs, ces serviteurs, ces servantes. Je crois que Dieu veut développer en vous et en moi la mentalité du serviteur. Alléluia. Le caractère du serviteur. Ce n'est pas pour tous les personnages que Dieu a appliqué cette formule élogieuse. Serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de l'Éternel. Mais même Jésus, le Messie, annoncé, a été présenté sous ce titre, serviteur de l'Éternel. Eh bien, ma prière, c'est que vous et moi, nous puissions recevoir de Dieu ce témoignage. Il est, elle est, serviteur, servante. La mentalité du service, la mentalité du serviteur, docile, obéissant, constant, fidèle, il ne regimbe pas, il n'a pas de mouvement brusque, il fait pas après pas avancer la charrue de l'Évangile, il fait progresser l'œuvre de Dieu, alléluia, jour après jour. Vous savez, quelquefois quand on est invité, nous pasteurs, dans des églises qu'on a connues, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, et même quelquefois plus parce qu'on prend de l'âge, hein, et qu'on retrouve des chrétiens qu'on avait connus donc il y a longtemps, ils sont toujours là, ils n'ont pas pris au plan spirituel une ride, physiquement oui, mais au plan spirituel, la même joie, la même fraîcheur, la même lumière dans leur regard, le même enthousiasme, et ben voilà, c'est ce que Dieu veut faire de nous. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne laisse aucun événement te décourager, entamer ton élan, ta motivation, ta consécration, ta joie et ton honneur à servir ton Dieu. Mais sers-le avec joie et fidélité, que le Seigneur ainsi en soit glorifié. Alléluia. Et puis je termine avec la troisième recommandation. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis. Alors, il s'agit du vêtement du chrétien, donc de la partie visible par notre entourage. Et j'aimerais vous parler de notre témoignage. Notre témoignage. Ce que notre entourage voit de nous, n'est-ce pas? Et il y a deux fibres qui sont là aussi très différentes, l'une par rapport à l'autre, la laine et le lin. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi oui, de porter par exemple, un pull pure laine, mais directement en contact avec la peau. Ben, ça m'est arrivé, je ne l'ai pas gardé longtemps. Hein. J'ai été irrité, j'ai eu des plaques rouges, ça irrite. Et en ceci, je comparerai cette fibre à tout ce qui est charnel, les œuvres de la chair. Par opposition, le lin est tellement agréable à porter. C'est pas vrai ? Une chemise en lin, c'est frais, c'est léger, c'est confortable, c'est en lin. Voilà. Et là, je le comparerai au fruit de l'esprit, à la vie de l'esprit. Quelle différence entre les deux listes que nous fournit l'apôtre Paul. Écoutez ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutez cette liste. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, ce n'est pas fini. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, je préfère cette liste, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, autrement dit la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que le Seigneur soit béni. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas le dimanche matin avoir une posture d'adorateur, peut-être même parler en langue d'une manière assez bruyante, et puis dans la semaine, être imbuvable à la maison. Ouais. On ne peut pas mélanger la laine et le lin, ce n'est pas possible. Vous voyez, très tôt dans l'histoire de ce peuple en construction, hein, Dieu a donné la prescription. Tu ne porteras pas de vêtements tissés de laine et de lin ensemble. Et que le Seigneur nous donne de laisser notre vieil homme sur la croix. Amen. Vous savez que nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. Le vieil homme, il est crucifié. Il y a des chrétiens... Ils parlent presque plus de leur vieil homme qui leur fait plein de problèmes plutôt qu'ils ne se nourrissent de l'homme nouveau. Ah, c'est mon vieil homme. Mais laisse-le sous la croix, ton vieil homme, même s'il a quelquefois des soubresauts. Vous savez, quand on venait de clouer quelqu'un sur une croix, on rayait son nom de l'état civil. Pour la société, il était déclaré mort. même s'il n'était pas vraiment mort encore. Il pouvait, vous voyez, son système nerveux pouvait réagir, ses muscles pouvaient se tétaniser pendant 2 secondes. Il pouvait encore bouger, mais pour la société, officiellement, il était déclaré mort. Au plan spirituel, il en est de même. Paul nous dit « Regardez-vous comme étant mort vis-à-vis du péché. » Même si quelquefois le vieil homme a des soubresauts, il est mort. Amen. Et nous sommes maintenant appelés à laisser l'homme nouveau se développer et manifester maintenant cette qualité de vie par le fruit du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu perfectionne notre témoignage, le vécu. Amen. Moi, j'essaie de réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé, vous savez, le jour où on a lapidé à mort Étienne. Et la Bible nous donne un renseignement, c'est que un jeune homme extrémiste était là, il s'appelait Saul. Saul de Tarse, élevé à l'école judaïque renforcée, il était là, respirant déjà la fureur, la violence, et il se nourrissait de cette scène. Et en fait, le témoignage d'Étienne, il prie son Dieu de pardonner à ses bourreaux. Il a des paroles de bénédiction. Il est calme. Son visage a pris l'apparence, aux yeux de tous, d'un ange. C'est extraordinaire. Et brusquement, il s'écrie « Je vois le Seigneur ». Et la Bible nous dit, il s'endort. Il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rancune, de révolte. Il a un témoignage tellement, tellement convaincant que c'est comme une semence qui tombe dans le cœur de ce jeune homme, Saul de Tarse. Et moi, je crois une chose, mais ça n'engage que moi. C'est que le travail de Dieu dans le cœur de Saul de Tarse, il a commencé là déjà, quand il a eu devant ses yeux le témoignage tellement fort et bouleversant d'Étienne, serviteur de Dieu. Ce que ton entourage voit de toi et en toi va forcément déclencher une œuvre salutaire dans les cœurs. Un jour, quelqu'un disait à un chrétien qui était en train de parler de sa foi et tout, quelqu'un lui a dit « Écoute-moi bien, ce que je vois en toi parle plus fort que ce que tu me dis. » Parce que ce qu'il disait, c'était biblique, mais sa manière de vivre au quotidien était à l'encontre des belles choses qu'il disait. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir un bon témoignage. Amen. Par ton témoignage à la gloire de Jésus, tu peux gagner des âmes. Tu peux les amener à leur tour à rencontrer le Seigneur. Amen. Alors que Dieu nous aide à veiller à tous ces mélanges affaiblissants, pénalisants, qui sont chaque jour possibles. Il faut veiller chaque jour et que nous puissions garder la pureté et l'intégrité de notre foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne veux pas être un chrétien du dimanche, mais je veux être enfant de Dieu 24 heures sur 24. Amen. Gloire à Dieu. De lundi à dimanche, de janvier à décembre, du baptistère jusqu'à la cérémonie des obsèques. Hein, Voilà. Être un chrétien à la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va s'incliner, si vous le voulez bien, et demander à Dieu qu'il nous fasse la grâce de vivre ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen.